J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
à mardi sur deux
à 10h sur Radio Bartas 107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais.
Et bonjour et bienvenue sur Palabre en forêt, l'émission Lozéro Gardoise sur la forêt. Et aujourd'hui, coronavirus oblige, je suis toute seule en studio. C'est le dernier moment pour enregistrer une émission. Et Virginie n'a pas pu être là avec nous, mais on pense bien à elle. Et donc pour cette émission d'avril, on va parler du regroupement des petits propriétaires forestiers. En forêt aujourd'hui, la plupart de la forêt est privée, pour ceux qui ne le savent pas. Elle est privée à 80% par exemple sur nos territoires. Et cette forêt privée, il y a surtout beaucoup de petits propriétaires, des propriétaires qui ont entre 0 et 4 hectares et peu de gros propriétaires. Et ça, on ne le sait pas toujours, mais la plupart des propriétaires ont peu de forêt. Et ça apporte des fois certains problèmes vis-à-vis de la gestion forestière, parce que cette propriété, elle est très morcelée, avec des tout petits bouts de forêt qui parfois font des bandes de quelques mètres carrés. Voilà, donc un gros problème de morcellement sur le territoire. Et pour essayer un peu de favoriser la gestion forestière sur ces petites propriétés, et donc une gestion forestière durable, il y a plusieurs outils dont on va parler aujourd'hui. Il y a un des outils, c'est l'Association syndicale libre de gestion forestière, donc on dit ASLGF, donc c'est un terme un peu barbare, on vous en parlera après. Et puis il y a des labellisations pour ces associations. Donc pour nous en parler, on a interrogé Jean-Yves Magot, qui est technicien au Centre régional de la propriété forestière de Lozère. Et ensuite, on aura par téléphone en interview Daniel de Mathéis, qui est propriétaire dans une association syndicale libre de gestion forestière. Tout de suite, écoutons Jean-Yves Magot. Je suis avec Jean-Yves Magot, qui est technicien forestier au Centre national de la propriété forestière sur l'antenne de la Lozère. Nous avons eu l'occasion de voir Élise Buchet, ton homologue dans le Gard, qui nous a présenté lors de la quatrième émission de Palabre en forêt, le Centre national de la propriété forestière, donc qui est un établissement qui représente le service public dédié aux forêts de propriété privée.
C'est bien ça.
Donc, avant d'aborder un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est le regroupement des petits propriétaires, est-ce que peut-être tu peux nous présenter l'équipe de l'antenne de Lozère ?
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, tu m'as présenté, je suis Jean-Yves Magot, je suis technicien forestier. L'antenne de Lozère du CRPF, du Centre régional de la propriété forestière, est composée de Loïc Moline, qui est ingénieur et responsable de l'antenne, de Céline Amberger, qui est chargée de mission, donc qui travaille sur des missions particulières, toujours en relation avec la forêt, et de Sandy Morel, qui est notre secrétaire. Voilà, donc on est une petite équipe de 4 personnes.
Pour tout le département.
Pour tout le département de la Lozère.
Bon, et bien beaucoup de boulot alors.
Tout à fait.
Alors, en première question, en premier lieu, est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux du regroupement pour les petits propriétaires forestiers ? Est-ce qu'il y a un contexte, par exemple, Cévenol par rapport à ça, ou est-ce que c'est partagé, ce contexte est partagé par ailleurs ?
Alors, l'enjeu du regroupement des propriétaires forestiers, il provient du fait de la nature même de la propriété forestière. En Lozère, on a 25 000 propriétaires forestiers environ. Il faut savoir que plus de 80% possèdent moins de 4 hectares.
Donc une toute petite surface pour les forêts.
D'autant plus que ces 4 hectares ne sont pas forcément d'un seul tenant. Ouais. Donc on a un morcellement du foncier forestier qui est très important et qui handicape certains, notamment pour l'exploitation forestière et toutes les actions de sylviculture, notamment par rapport au, ben pour l'exploitation, c'est notamment le déplacement des engins forestiers. On travaille avec des tracteurs, des machines forestières qui sont assez lourdes, que l'on ne peut pas déplacer sur la route parce qu'elles ne sont pas immatriculées. Donc ça veut dire que ces véhicules, on les transporte sur des camions et à chaque exploitation, on a un temps de déplacement avec un camion pour une machine d'abattage, une machine de débardage. Ça renchérit beaucoup le coût de l'exploitation et ça ne devient plus économiquement rentable pour des petites parcelles forestières.
Et est-ce qu'il y aurait, par exemple, est-ce que vous savez la surface minimum qu'il faudrait pour un propriétaire, pour que ce soit plus simple ?
C'est difficile à raisonner comme ça parce qu'en fonction de la nature des boisements dont on est propriétaire et en fonction de leur valeur, effectivement, le seuil de surface va être un petit peu différent. Je pense à une plantation résineuse assez âgée de 60, 80 ans où on a un fort volume à l'hectare avec des bois facilement valorisables. On va se satisfaire d'une surface inférieure à un boisement de qualité, bois de chauffage ou bois énergie, qu'il soit feuillu ou résineux, où là, pour rentabiliser l'opération, on va avoir besoin d'une surface importante. On va plutôt raisonner peut-être en mètres cubes. C'est-à-dire qu'on va considérer aujourd'hui que pour permettre le déplacement d'engins et engager des opérations rentables, il faudrait pouvoir avoir des volumes 400, 500 mètres cubes. Donc ça, on ne le retrouve jamais sur du microfoncier, quoi.
D'accord.
Voilà, donc le regroupement, l'intérêt, c'est de regrouper des propriétaires, des parcelles, pour pouvoir massifier l'offre et pouvoir réaliser les opérations.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres enjeux donc, par rapport à ce regroupement des petits propriétaires ?
On facilite la gestion et alors ce regroupement, il permet aussi, là on a parlé d'exploitation, mais parfois les propriétaires pourraient être amenés à engager des investissements, des travaux de création de dessertes forestières, de pistes, de chemins, des boisements, des reboisements. Et là on est dans le même cas de figure, des trop petites surfaces nous enlèvent toute possibilité d'avoir un soutien financier, des aides, des subventions. Donc là aussi, dans certains cas, on peut se regrouper pour mobiliser des aides et engager là des opérations d'investissement.
D'accord. Et donc, les petits propriétaires, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des associations syndicales libres de gestion forestière, donc qui permettent aux petits propriétaires de se regrouper, justement pour faciliter la gestion et l'exploitation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Quels sont les avantages ou les inconvénients par rapport à d'autres regroupements, etc.
Donc l'abréviation ASLGF, Association syndicale libre de gestion forestière, comme son nom l'indique, c'est une association qui permet de regrouper les propriétaires, mais on va dire plutôt des parcelles. Parce que, voilà, une ASL, une association syndicale libre, elle regroupe des parcelles et non pas des propriétaires. Alors forcément, il y a un propriétaire derrière, mais quand on va déposer les statuts en préfecture, on nomme des parcelles et non pas des propriétaires. Mmh. Ces associations, elles peuvent être créées soit pour des opérations, à l'occasion d'opérations, on va dire, relativement ponctuelles. On a eu le cas dans le secteur du Val-d'Aunès où il y avait nécessité de réhabiliter des pistes d'exploitation et des pistes de circulation forestière. Ce projet de piste concernait de la forêt domaniale, mais également bon nombre de propriétaires privés. Le gestionnaire et le maître d'œuvre de ce projet a jugé nécessaire de regrouper les propriétaires au sein d'une ASL pour faciliter la création de cette piste. Donc ça, c'est une opération qui a été réalisée de façon très ponctuelle. Après, ces associations, on peut les voir différemment. Et là, on peut, pour non plus là des opérations ponctuelles, mais plutôt pour réfléchir à la gestion forestière sur une longue période, on peut essayer d'animer et de favoriser le regroupement des propriétaires, donc de différentes parcelles, pour là, sur le long terme, faire de la véritable gestion forestière. Et c'est ce qui a été le cas pour la première ASL GF créée en Lozère, sur le territoire de la Margeride, l'association de la Terre de Peyre. où là, le but était bien de regrouper des propriétés très morcelées, où on ne faisait rien. Et ce regroupement a permis d'engager coupes, travaux. Et bien souvent, les coupes sont des véritables coupes sylvicoles, c'est-à-dire que on ne fait pas des coupes rases comme on serait amené à faire sur des petites parcelles, parce qu'on ne peut pas faire autrement d'un point de vue économique. Là, on se permet de faire de la véritable sylviculture, des coupes d'amélioration, des éclaircies, des coupes d'ensemencement, enfin des choses un peu plus réfléchies que l'opération ponctuelle.
D'accord. Et est-ce que c'est lourd à monter? Parce que j'ai l'impression quand même, pour regrouper des parcelles de propriétaires, quelles sont les étapes pour la création de l'association? Comment ça se passe?
Alors il y a un petit peu, là c'est pareil, il y a un petit peu de voix. Soit c'est des propriétaires forestiers très motivés, qui ont participé bien souvent à des formations, des réunions forestières que nous organisons, qui ont déjà entendu parler de cette forme de regroupement, qui d'eux-mêmes peuvent juger utile de se regrouper, de créer l'association syndicale. Ça a été le cas en Cévennes, notamment en Vallée française, l'association, la SLGF de la Vieille Morte, une autre sur Fraissinet de Fourques, Combes-Tragnos. Donc là, c'est les propriétaires eux-mêmes qui ont créé leur propre association, bien souvent avec l'appui du CRPF. Et puis, il y a d'autres cas où, et c'est peut-être les plus fréquents, où c'est suite à une animation du CRPF que l'on crée une association. Ça a été le cas en Margeride, dans le secteur d'Aumont-Aubrac, avec l'ASL de la Terre de Peyre, et plus récemment, sur la Corniche des Cévennes, une nouvelle association est née. Donc là, on va dire que c'est la partie bien souvent la plus longue, c'est l'animation des propriétaires, le porter à connaissance. Et puis après, une fois que les propriétaires commencent à être motivés, eh bien, il y a une assemblée générale constitutive. Suite à cette assemblée générale, il y a une élection d'un conseil syndical, on établit des statuts, un règlement, on établit également le niveau de cotisation pour adhérer à l'association, qui peut être forfaitaire ou qui peut être proportionnelle à la surface. Et ensuite, on envoie les statuts en préfecture, parution au JO, et l'association est en route.
D'accord. Bah, et donc, ça peut mettre 1 ou 2 ans, parfois ou,
Tout dépend de la taille de l'association. C'est vrai que la première que l'on a créée en Terre de Peyre, l'animation a été relativement longue, on va dire qu'on a peut-être mis entre 1 an et 1 an et demi. Quand c'est à l'initiative même de propriétaires, ça peut éventuellement être un peu plus rapide.
D'accord.
À savoir que le coût de la création de ce genre d'association est très faible, il correspond au paiement pour l'inscription au journal officiel.
D'accord.
Donc je ne sais pas de mémoire combien que c'est, mais on va parler peut-être d'une centaine d'euros. Quoi.
D'accord.
C'est pas ce qui est rédhibitoire.
D'accord. Et quelles sont les motivations les plus courantes des propriétaires pour créer une ASL?
Bien souvent, c'est parce qu'ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils peuvent pas gérer leur parcelle. Tout seul, ils se rendent compte, j'ai une trop petite surface, quand j'appelle un exploitant, il me dit que c'est trop petit, ça l'intéresse pas, ou alors il me propose... pour que ça soit économiquement rentable de couper tous mes bois. Voilà, le propriétaire se rend compte qu'il a un problème et peut commencer à échanger avec les voisins et voir si l'union ne pourrait pas faire la force. Et je peux vous confirmer que c'est le cas.
D'accord. Donc, ce type de regroupement peut améliorer, disons, les produits bois qu'on peut sortir de nos forêts.
Oui. Ce dont il faut parler quand même, c'est que on réunit des propriétaires, on réunit des parcelles, donc on va gérer une surface finalement au final assez importante par le biais de l'ASL. La gestion de ces parcelles, elle ne se fait pas comme ça. Il y a un diagnostic qui doit être établi de toutes ces parcelles constitutives de l'association, et ensuite il y a des propositions de gestion qui doivent être faites. En fait, ces actions-là, hein, elles se matérialisent par la rédaction de ce que l'on appelle un plan SAM de gestion. C'est un document d'aménagement qui, comme je l'ai dit, décrit les parcelles et prévoit, bien sûr en accord avec le propriétaire, prévoit des interventions sur une durée C'est du moyen terme, on va parler de 15 ans, ça peut être de 10 à 20 ans.
Élise Buchet nous en a parlé à la dernière émission, les documents de gestion durable.
Donc voilà, c'est bien ce plan de gestion qui est nécessaire pour après la vie technique de l'association.
Et pour garantir un peu quand même la gestion durable aussi de ces petites propriétés finalement.
Oui, tout à fait.
Alors, on va parler maintenant d'un terme barbare, parce qu'en fait, ces ASL, là, ces associations syndicales libres de gestion forestière, peuvent être labellisées GIEEF. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire d'abord que ça veut dire que ce sigle et quels sont les apports en fait, de cette labellisation qui est possible aujourd'hui ?
Alors, dans notre jargon, on appelle ça un GIEF, qui veut dire exactement groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Donc, comme tu l'as dit, c'est pas une association, c'est pas quelque chose de physique, c'est une labellisation, finalement, de la gestion. C'est une reconnaissance officielle par l'État d'une gestion durable de la forêt. Et quand on parle de gestion durable, ça veut bien dire qu'on ne gère pas que pour faire du bois. On pense aussi au côté social, au côté environnemental. Donc cette reconnaissance, elle est possible sous certains critères. Il faut avoir une surface minimum ou un nombre minimum de propriétaires. Alors je crois que la loi a récemment évolué et permet d'obtenir ce label GIEF pour les zones de montagne à partir de 50 hectares et 20 propriétaires différents.
Ah oui,
alors
c'est
que classiquement,
assez...
en zone de plaine, c'est plutôt, je crois, 300 hectares.
D'accord, ouais. Voilà. Mais il faut quand même beaucoup de propriétaires. Alors.
Il faut quand même montrer qu'il y a un véritable regroupement de propriétaires.
D'accord.
Voilà. Alors ce GIEF, en fait, cette labellisation... qu'est-ce qu'elle apporte aux propriétaires ? Elle apporte essentiellement un avantage fiscal, un avantage financier. Il faut savoir qu'en forêt, on dispose de certaines subventions, dont aides forestières, certaines se traduisent par des crédits d'impôt. C'est notamment le cas pour ce qu'on appelle les défis forêts. On peut défiscaliser 18% des montants investis, mais c'est réservé aux investissements réalisés sur des parcelles de plus de 10 hectares d'un seul tenant. Donc tous les petits propriétaires forestiers, on les écarte. Cette labellisation GIEF permet d'obtenir cette défiscalisation sans seuil de surface. Je suis propriétaire forestier de 0,5 hectares au sein d'une ASL. Labellisé GIEF, je peux défiscaliser une partie de mes investissements qui d'ailleurs est bonifié par rapport au cas normal.
Donc l'État a permis ça pour pouvoir inciter un peu les propriétaires à se regrouper et à gérer la forêt en prenant en compte la biodiversité.
Voilà, les différents enjeux que peut représenter la forêt. Et alors cette aide, elle peut aussi être intéressante par le biais du GIEF pour justement la rédaction de ce plan SAM de gestion. Il y a une aide directe et forfaitaire à l'hectare pour la rédaction du plan SAM de gestion, qui est souvent le plus gros coût, finalement, de la création d'une association.
Oui, parce que le plan SAM de gestion est rédigé par un expert forestier, donc ça coûte un petit
peu,
forcément.
Il est rarement rédigé par les propriétaires forestiers, parce que c'est quand même un document technique assez compliqué. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle un homme de l'art ou un expert forestier qui va rédiger ce document et le facturer.
D'accord. Sur le Gard et la Lozère, est-ce qu'il y a des associations ? On a dit qu'il y avait des associations syndicales libres de gestion forestière, mais est-ce qu'il y a des associations qui sont labellisées GIEF ?
Aujourd'hui, on a une seule ASL-GIEF qui est labellisée GIEF, c'est celle de la Terre de Peyre. Ça a été la première, ça a été le premier GIEF d'Occitanie et le deuxième au niveau national. Donc,
vous pouvez être fiers de vous.
On peut être fiers de nous. Cette ASL labellisée GIEF regroupe aujourd'hui environ 50 propriétaires pour 550 hectares.
D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'après, avec les chiffres qu'on voit, les critères qu'il faut pour être GIEF, là, aujourd'hui, les prochaines ASL là, qui sont montées en Lozère ne peuvent pas être labellisées GIEF. Il n'y a pas assez de propriétaires.
Il n'y a pas assez de propriétaires, effectivement. Ouais. Alors, il y en a une deuxième ASL qui est en principe en voie labellisation JF, c'est la SL du Chambon dans le Gard.
Dans le Gard, ouais, voilà. C'est la deuxième.
Je crois que les démarches sont en cours pour cette demande de labellisation.
Tout à fait. Et on entendra après donc ton interview Daniel de Mathéis qui nous parlera de cette ASL du Chambon. Donc okay. Il pourra nous en parler. Ouais. Merci beaucoup Jean-Yves. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux nous donner peut-être les coordonnées du CRPF du Gard et de la Lozère pour peut-être les petits propriétaires qui pourraient nous entendre s'ils veulent te joindre, en tout cas la Lozère peut-être.
Alors pour la Lozère, bon, le CRPF est basé à Mende. Et je vais vous donner directement le numéro de téléphone qui est le 04 66 65 26 79. Malheureusement, je ne connais pas par cœur le numéro de téléphone du Gard, mais par contre, ils sont basés à Ribot-les-Tavernes. Et principe, on a un site internet. CRPF, donc vous trouverez tous les renseignements sur le site.
Et puis on le mettra sur le site de Radio Bartas à la fin de pour cette émission. Un dernier petit mot, parce qu'on demande à chacun de nos invités s'ils ont un petit mot forestier à rajouter.
Alors le mot forestier, c'était pour, en fait, il est pour préciser un petit peu les choses. Aujourd'hui, bon, tu m'as interrogé sur une forme de regroupement. Mmh. Je voulais seulement signaler qu'il existait d'autres formes de regroupement de propriétaires, notamment les groupements forestiers. Les groupements forestiers, c'est une forme de regroupement qui est relativement ancienne et qui a été notamment très utilisée dans la phase des gros reboisements du Fonds forestier national d'après-guerre. Donc là, on a un bon nombre on a plus d'une centaine de groupements forestiers en Lozère, qui sont bien souvent des groupements forestiers, ce que l'on appelle de petits porteurs. À l'époque, les gens n'utilisaient plus leur terre, donc préféraient se réunir pour pouvoir investir dans des reboisements. Et aujourd'hui, on a constitué des massifs forestiers de cette façon-là. C'est une forme de regroupement qui est valable pour des petits propriétaires, mais aujourd'hui qui est utilisée fréquemment dans le cadre de succession et pour éviter de démembrer les propriétés. Là, c'est des groupements forestiers, mais plutôt familiaux. Donc ça, c'est une forme de regroupement. Et puis après, je voulais également signaler qu'on peut se regrouper de façon plus informelle, tout simplement en rencontrant ses voisins, en essayant d'échanger, de vendre, pour essayer de regrouper un petit peu le foncier. Et ça, ce sont des opérations qui actuellement peuvent être aidées par le conseil départemental de Lozère, avec qui nous travaillons, aidées directement auprès des propriétaires par le financement d'une partie des frais de notaire lorsqu'on fait des achats ou des échanges de parcelles. Également, à signaler que le conseil départemental aide aussi un petit peu à l'animation et au porter à connaissance de cette forme de regroupement.
Voilà. D'accord. Eh bien, très bien. Merci Jean-Yves.
De rien.
Et puis à
merci
bientôt.
De m'avoir accueilli.
Retour au studio, on vient d'écouter Jean-Yves Magot du Centre Régional de la Propriété Forestière. Et avant d'écouter Daniel de Mathéis, on va faire une petite pause musicale avec Cesaria Evora, Sodade.
Esse caminho passando bem. to me so that, so that, so that this mia terra se ne inclina, so that, so that, so that this mia terra se ne inclina. Si vou escrever, muito a escrever, si vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Si vou escrever, muito a escrever, si vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Minha terra se me clau.
Et donc vous êtes bien sur l'émission Palabre en forêt et nous venons d'écouter Cesaria Evora, Saudade. On accueille par téléphone maintenant Daniel De Matteis, qui est président d'une association syndicale libre de gestion forestière sur la commune du Chambon, qui a été créée officiellement en 2018. Donc Jean-Yves Magot, qui était technicien au CRPF de Lozère, vient de nous expliquer ce qu'est une association syndicale libre de gestion forestière. Et maintenant, on va écouter un président d'une association. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Donc avant d'aborder l'association du Chambon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton métier, comment tu es devenu propriétaire forestier, quelles essences tu as, etc., etc.
Oui, bien sûr. Écoute, j'habite dans ce pays depuis les années 70 environ. À l'époque, on était porté par un idéal farouche de retour à la terre et à l'autonomie. On vivait en communauté. On s'est rapidement rendu compte qu'il fallait malgré tout travailler et produire pour pouvoir vivre ici. Et on s'est retrouvé propriétaire, comme ça, d'une forêt qui fait une quinzaine d'hectares. Mais à cette époque-là, on n'avait pas conscience véritablement des enjeux forestiers. On était porté plutôt sur le jardinage et l'élevage. Et puis l'incendie 85 est arrivé, et c'est là où tout s'est révélé. Bon, mon métier, c'est cuisinier. J'ai fait la cuisine à Vialas pendant 37 ans, dans une maison de retraite.
D'accord.
Et je suis maintenant à la retraite complètement, et c'est pour ça que j'ai pu prendre en charge cette nouvelle création de SLGF. Voilà.
D'accord. Et sur votre forêt, quelles essences
Alors on avait voilà on a, sur les forêts de notre territoire à nous, c'est principalement il y a 25 ans c'était le châtaignier qui était omniprésent en taillis. Et puis après l'incendie 85, la forêt a muté largement. C'est devenu plutôt du pain maritime, voilà. Et le châtaignier dépérit fortement, voilà. Et puis évidemment, on a aussi pas mal de chênes verts, d'endroits qui sont plus ou moins des landes et non exploitables, quoi, ou tout au moins pas très intéressantes à exploiter, quoi.
D'accord. Et avant de parler des enjeux particuliers sur la forêt, là, je viens de. Vu que tu disais que tu étais en communauté avant d'avoir cette forêt, ça veut dire que tu es seul propriétaire de la forêt ou vous êtes à plusieurs sur une
non,
forêt
non, non, non. Là, je suis seul propriétaire de cette forêt. C'est-à-dire que c'est une aventure qui était organisée. C'est-à-dire qu'on s'est installé pour des raisons économiques à plusieurs, parce que faire l'acquisition d'une propriété avec de la forêt, il fallait suffisamment de moyens. Et très rapidement, dès qu'on a pu trouver du travail dans le pays et avoir des salaires, nous nous sommes divisés en bonne entente et chacun a pu faire vivre sa propriété, voilà.
D'accord. Et donc là, maintenant, donc, tu es propriétaire de cette forêt et vous êtes mis ensemble avec d'autres pour pouvoir gérer...
Voilà, alors il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est il y a 30 ans. Après l'incendie 85, on a eu un incendie qui a ravagé les deux tiers de notre commune. Et ça a été vraiment un phénomène terrible, oui, quoi, parce que la forêt était anéantie à 80% sur la surface de notre commune, qui fait 1500 hectares. Et à la suite de cet incendie, on a rencontré les gens du CRPF qui nous ont... stimulés, qui ont surtout organisé la reconstruction de cette forêt disparue. Et on a créé deux ASA sur la commune du Chambon, l'ASA de Vert et l'ASA de le lac Cornas-Palanquise, qui regroupaient chacun une vingtaine de propriétaires et qui avaient environ 60 hectares chacune.
D'accord.
Et on a reboisé avec des essences qui essentiellement étaient moins combustibles, en l'occurrence du cèdre, quoi, voilà, prioritairement.
Donc ASA, juste pour dire, ASA pour les auditeurs, c'est association syndicale.
Association syndicale autorisée, ouais. C'est-à-dire que c'est un statut qui est différencié de celle de la SLGF, puisque l'arrêté périmétral est fixé par le préfet et c'est plus difficile au niveau gestion parce que ça passe par le percepteur, etc. Alors que la SLGF, c'est une association libre, ça n'a pas cette lourdeur administrative.
D'accord.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a évolué en ASLGF, pour pouvoir intégrer de nouvelles personnes sans passer par l'arrêté périmétral visé par le préfet, où c'est plus difficile d'en sortir, etc. Voilà.
D'accord. Donc, pardon, je t'ai coupé, mais tu disais que tu avais eu des cèdres sur ta propriété.
Oui. Alors, ouais. les cèdres ont été plantés en 1989, là, ils ont maintenant 30 ans, quoi. Il faut les éclaircir. On a des travaux d'éclaircie, des travaux d'amélioration à faire, et aussi de taille de formation. C'est-à-dire qu'on est déjà à un stade où on commence à avoir on arrive à valoriser quelques parcelles en faisant des tailles des coupes d'éclaircies, quoi. On a pu vendre cette année déjà des coupes d'éclaircies sur de la Riccio. C'est la première fois. C'est une forêt qui est gérée, alors qu'ici il n'y avait aucune culture forestière. Ici c'est un pays de ruralité et puis qui a été dit aussi qui a vécu sa période de mine, c'est l'expansion minière et de vie industrielle. Et les gens d'ici c'était principalement des paysans et non pas des forestiers. Ils défrichaient plutôt que de okay. Voilà, et puis bon, le pin maritime a été introduit par la mine, hein, pour faire des bois de galerie.
D'accord.
Mais les gens d'ici n'ont pas épousé cette culture-là, et la forêt, c'était plutôt un ennui, quoi, pour les gens d'ici. C'est au cancer brûlé, c'est pas que des pins qui brûlent. Mais l'incendie 85 a réveillé les consciences, et depuis, le chemin a été fait, c'est-à-dire que... pas mal de propriétaires ont fait pour l'époque des travaux pour leur propre compte, donc les gens du pays ont pu voir des acteurs de leur commune prendre la pelle, la pioche, planter des arbres, et on se rend compte qu'aujourd'hui les plantations qui ont été faites par les propriétaires sont les plus belles plantations, parce qu'il y a un suivi particulier, les gens qui sont appropriés le travail.
Ah d'accord, ouais. Et vous avez fait plusieurs mélanges d'essences, j'ai entendu parler de pin laricio,
oui.
Cèdre, est-ce qu'il y avait d'autres, des
feuillus
peut-être?
Oui, bien sûr, alors on a planté aussi des merisiers, là c'est pas une réussite, on est obligé de constater qu'en la matière on fait pas toujours tout juste, hein, évidemment. Parce que le merisier apprécie mal les plantations uniformes, et puis c'est un arbre qui drageonne, qui fait beaucoup de... qui attire le sanglier par les noyaux, etc. C'est un arbre qui pose des problèmes et qui n'est pas très beau, excepté que au printemps ça fait joli dans le paysage, ça fleurit. Mmh. Et aussi on avait planté ça parce qu'à la suite de l'incendie, c'était les premiers arbres qui avaient survécu, qui avaient refleuri la saison suivante, quoi. Et c'est ce qui a un peu incité les gens, mais c'est un échec. Par contre, on a planté des chênes rouges, même sur des versants sud, avec des sols profonds, qui sont en bonne santé, qui font aujourd'hui des diamètres de 30-40. Et on a planté aussi quelques noyers dans les bas-fonds. En essence en résineux, on a planté des Douglas aussi. Bon, Douglas, on est un peu inquiet par rapport au réchauffement climatique, mais malgré tout, on a quelques beaux Douglas déjà qui commencent à sortir du lot, quoi, voilà.
D'accord. Donc oui, quand même pas mal de... une forêt assez mélangée finalement.
Bien sûr, bien sûr. Mais l'objectif, à l'époque, on avait des directives qui étaient précises. Mais on a pu chacun organiser son travail et faire en sorte d'avoir une certaine liberté dans le choix des essences malgré tout. Ce qui est quand même un atout, parce que quand on plante des arbres, on plante pour le temps long et on ne sait pas ce que vont devenir les arbres dans 50-60 ans, et on ne sait pas non plus les conditions qu'ils vont devoir affronter. D'accord. Et je pense que dans les perspectives des reboisements à venir, là, les travaux qu'on va bientôt faire, on sera obligé de diversifier pas mal les essences. Voilà.
Oui, pour au moins en avoir une qui tient. Quoi.
Voilà, voilà. Et puis c'est expérimental aussi. Voilà. Malgré tout, on a quand même des terrains assez pauvres chez nous. Hein. C'est des terrains. Là, il faut avoir la foi pour faire de la forêt, mais à la fois, c'est plus que nécessaire parce qu'on a un environnement boisé qu'on ne sait pas du tout approprié. Qui a poussé tout seul, les gens d'ici ne se sont pas appropriés. Et depuis qu'on a planté dans les années 90, là, le regard sur la forêt a changé parce que les gens d'ici ont vu des hommes planter des petits arbres et puis ils voient les arbres qui ont grandi aujourd'hui. Et petit à petit, ils se sont appropriés. Et c'est d'ailleurs à la suite de cet événement qu'on a pu élargir nos hasards et faire cet ASLGF parce qu'il y avait un regard particulier sur notre commune, parce qu'on avait été les acteurs, disons, il y avait une forme de... On avait été les précurseurs, quoi, voilà.
D'accord, ouais. Et vous avez eu des aides, là, pour créer cette SLGF ?
Ah oui, on a eu des aides, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs, sans aide, c'était quasiment impossible, parce que pour pouvoir obtenir des aides, déjà, il fallait avoir un plan simple de gestion, qui vient juste d'être fini à l'instant que je vais signer... je vais le signer tout à fait dans la semaine qui vient là, et on a eu bien sûr des aides de l'État qui nous ont permis de réaliser ce plan simple de gestion, bien sûr. Pour les plantations antérieures dans les années 90, on a eu aussi des aides de l'État des aides à 80%, hein, qui étaient à l'époque, c'était des programmes intégrés militaires, les PIM là, qui étaient encore en vigueur et qui nous ont permis de faire des travaux. Sinon, sans aide, on n'aurait jamais pu y arriver.
D'accord, ouais. Et donc, tu disais que vous alliez faire des travaux forestiers. À quoi ils vont servir là pour la forêt de demain ?
Ben, les travaux forestiers que nous envisageons dans la priorité, c'est déjà des plantations sur des zones qui ont été déboisées, parce qu'on a fait quelques ventes récemment sur une quinzaine d'hectares. Qui ont été valorisés, ce que les gens ici ne connaissaient pas, ça, parce que on a été conseillés par les techniciens qui ont fait des cubages précis, etc. On est rentré dans un cycle un peu plus vertueux de l'exploitation forestière et de la conscience qu'ont les propriétaires de la valeur des arbres. Et puis, on va faire des reboisements qui, eux, sont financés par le dispositif Sève-Égoile qui est arrivé à son terme, là. Donc, ça, c'est les premiers travaux qui vont se réaliser tout à fait prochainement, à l'automne prochain. Et puis les travaux qui ont été, disons, déterminés par les diagnostics qui ont été faits dans le cadre du plan de gestion, c'est principalement des éclaircies d'amélioration, quoi. Parce qu'on a pas mal de pins maritimes qui sont pas suivis, qui n'ont jamais été suivis depuis 40, 50 ans, 60 ans, et qui font qu'il faut pour arriver à sélectionner de beaux sujets, il faut faire des coupes d'amélioration, enlever les vilains, les bois qui partira à l'énergie ou un truc comme ça, mais il faut arriver à rentrer dans un cercle vertueux de la sylviculture, quoi, voilà.
D'accord, très bien. Et peut-être, je ne sais pas, comment imagines-tu les forêts de la SLGF dans 20 ans ?
Ben, je les imagine un peu comme celles qu'on a déjà générées dans les années 90, mais avec certainement plus de diversité dans les espèces, quoi, parce que c'est un peu le challenge de... On entend tous parler du changement climatique, et il faut s'y confronter, il faut être un acteur permanent, et on pense que diversifier les essences, ce sera une bonne solution. Ce dont on a pu se rendre compte, c'est que l'arbre emblématique qu'on connaissait chez nous, le châtaignier, est vraiment très dépérissant et il faudra peut-être un peu l'oublier, ou alors trouver des espèces de châtaigniers qui soient un peu plus résistants. Même sur des altitudes de 400-500 mètres sur des versants nord, on a de grosses difficultés parce que moi j'ai essayé de planter des châtaigniers hybrides là où était installé le taillis, qui est aujourd'hui totalement mort, que je vais couper là. Et ben j'ai trois arbres sur 10 qui résistent, quoi, hein, malgré les arrosages que je vais faire en montagne et tout.
Ah oui, d'accord, malgré les arrosages.
Malgré les arrosages, c'est-à-dire qu'on a soit des terrains qui sont épuisés. Je parle des sens forestiers, mais c'est très difficile, quoi. Enfin, le peu d'expérience que j'ai, moi, c'est elle est négative, quoi. Je me suis un peu épuisé pour rien, mais bon, je mettrai des chênes rouges. Chênes rouges, ça marche un peu mieux.
D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Est-ce que tu aurais un petit mot forestier à rajouter ? On le demande à chacun de nos invités maintenant.
Ben, je pense que le petit mot que je voudrais rajouter, c'est que la forêt, c'est le temps long et il faut s'inscrire dans cette perspective-là. Et bien souvent, on a nos contemporains ont une vision très, très, disons, immédiate de ce qu'on peut faire en forêt, voir ce qui se passe en forêt. Mais la forêt, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se jardine et c'est évident que il faut y prendre part et apporter une contribution et puis ça nourrit l'âme aussi, ça fait du bien de s'occuper des arbres. Voilà.
Ah d'accord. Bon et ben merci beaucoup en tout cas pour avoir répondu à nos questions.
Allez.
Merci bien. Au revoir.
Et voilà, c'était Daniel de Matéis, donc président de la SLGF de la commune du Chambon dans le Gard. L'émission touche à sa fin. On a duré un peu plus longtemps que d'habitude parce que c'était un sujet intéressant. Voilà. Et puis, on espère qu'on pourra enregistrer une prochaine émission pour le mois de mai. Et d'ici là, on vous dit bon confinement et puis à bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud. Mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre
en forêt,
l'émission Lozéro Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous
un mardi sur deux
à 10h sur Radio Barthas 107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.